Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France, Michel Picot sur BFM Business.
Bienvenue, comment naissent les noms d'une marque? D'où viennent les noms comme Areva, Wanadoo, Clio et on pourrait en citer beaucoup d'autres? Qu'est-ce qu'un bon nom et comment éviter certaines boulettes? Marcel Botton est un créateur de noms avec ses équipes au sein de l'agence Nomen. Il viendra nous en dire plus dans quelques secondes. Nous allons vous raconter dans cette émission l'histoire des frères Benhamer autodidactes qui sont aujourd'hui à la tête de la troisième chaîne française de restauration japonaise spécialisée dans les sushis. Leur chaîne s'appelle It Sushi. Ils viennent d'ouvrir le premier drive sushi d'Europe, c'est tout près de Bordeaux. Dans cette émission également, focus sur de très jeunes créateurs d'entreprises. Ils ont la vingtaine, sont encore étudiants et pourtant ils se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat. Une bouffée d'oxygène et d'optimisme à vivre dans quelques minutes. Enfin, nous terminons avec une première mondiale. C'est le code à bulles infalsifiable, une invention française qui, curieusement, a séduit les Chinois qui, eux, veulent lutter contre la contrefaçon. C'est à découvrir à la fin de ce 216e numéro du Business Club de France. Allez, une question pour commencer. Savez-vous d'où viennent les noms Pôle emploi, Areva, Wanadoo, Vélib, Vivendi, Vinci, Thalès, Bleu Ciel et je pourrais en citer beaucoup d'autres? Eh bien, ces noms ont été créés au sein de l'agence Nomen que vous avez fondée et que vous dirigez. Marcel Botton, bonjour.
Bonjour, monsieur Picot.
Depuis la création de cette agence en 1981, c'est 1580 noms qui ont été créés, soit en moyenne un nom créé tous les deux jours. C'est quoi un bon nom?
Alors aujourd'hui, un nom, ça s'adresse au monde entier, la plupart du temps, sauf dans le domaine des services. Alors déjà, un bon nom, c'est un nom qui peut passer aussi bien en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Déjà, ça, c'est assez compliqué. Et puis, un bon nom, c'est un nom qui donne envie, qui fait vendre, qui donne envie d'acheter. Mmh. Bon, et ça, c'est quelque chose d'un petit peu mystérieux. Il y a une petite alchimie là-dedans pour que le nom... suscite le désir.
Ouais. Mais comment est-ce qu'on crée un nom? Ça veut dire que vous allez voir des linguistes, que vous avez des correspondants dans différents pays, que vous testez des mots, que vous faites des... Je sais pas, vous jouez avec les lettres? Comment ça se passe? C'est assez sympa, hein, d'ailleurs, chez vous, parce qu'on doit réfléchir à un nom.
L'ambiance dans la phase de création est une ambiance assez débridée, je dirais. Hein. Bon, forcément, forcément. Après, alors, on mélange, effectivement, il y a des linguistes, il y a des documentaristes, des documentalistes, excusez-moi, des gens de marketing, bon... Et on va produire des milliers de noms. Pour trouver un nom, on va en produire des milliers. C'est ça le principe. Hein. C'est un peu le principe de l'orpaillage. Si vous voulez, il faut manipuler beaucoup de choses pour trouver
la pépite.
Voilà, ou la paillette.
Ou la paillette. Bon.
J'espère que c'est des pépites, des fois. Après, c'est le tamisage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette bâtée, pour reprendre l'analogie de l'orpaillage, il faut extraire ce qu'il y a de bon là-dedans. Et donc, il faut éliminer. Et éliminer, ça veut dire vérifier dans des dizaines de langues comment le nom fonctionne. S'assurer que l'étymologie tient debout, s'assurer que c'est ppas déjà une marque occupée, enfin, il y a mille choses.
Mais quelque part, vous avez aussi le brief de votre client qui, quand il vient vous voir, s'il s'appelle Renault et qu'il veut faire une voiture qui s'adresse particulièrement aux femmes urbaines, vous êtes un peu tenté de l'appeler Clio. Enfin, je sais votre nom.
C'est un bon exemple.
D'accord, mais bon. Non, mais quelque part, vous avez tenu compte du brief, quoi.
Bien sûr. Alors, ce qu'on dit chez nous, ce que je dis, c'est on écoute soigneusement le brief et on le dépasse. Ouais. C'est-à-dire que si on reste dans le brief, on va forcément décevoir un petit peu. Il faut, à un moment donné, il faut que le nom surprenne. C'est comme la pub, hein. C'est le même mécanique. Ouais. Donc, on écoute le brief, mais après, il faut le transgresser, le brief. Sinon, on n'a pas fait notre boulot.
Ah ouais. Parfois, on fait des choses simples, comme le Vélib, qui est la contraction de vélo et de liberté.
Par exemple, oui. Ouais. Alors, un bon nom peut être un nom simple, parfois, oui.
Mais parfois, on se creuse un peu plus. Comme Thalès.
Oui. Hein? Thalès, comme le théorème de Thalès.
Ah, c'est ça, oui.
Oui,
ça m'est revenu, parce que c'est effectivement le nom est tellement arrivé dans le monde des entreprises qu'on en avait presque oublié
le théorème de Thalès. Oui.
Combien de temps pour trouver un nom?
Oui. Ça varie entre 15 jours et 2 mois, suivant l'envergure du dossier, je dirais. Et le nombre de pays visés, notamment. Hein.
Juste un petit mot sur l'agence Nomen, c'est un peu plus de 5 millions de chiffre d'affaires.
De chiffre d'affaires.
Vous êtes 45 consultants, oui. 500 linguistes, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure, dans 110 pays.
Enfin, oui, c'est ça. Les linguistes ne sont pas salariés, on est bien d'accord.
Non, mais enfin, vous les consultez, c'est partie de votre réseau. Quoi.
Oui, de 500 et quelques linguistes représentant 120 pays. Et ça, c'est les gens qu'on interroge. Prenons l'exemple d'une marque de voiture. Pas question de prendre un nom qui a un sens négatif dans un pays majeur. Ça ne va pas du tout. Et Dieu sait que les exemples foisonnent. Hein.
Mais on va en donner quelques-uns parce que c'est assez drôle.
Moi, je n'en donne pas parce que je veux me fâcher avec personne.
Je vais les donner,
mais
moi.
Vous les connaissez. Bon, il faut vérifier, il faut interroger le linguiste dans les principales langues et s'assurer que le nom auquel on a pensé est un nom qui fonctionne dans telle et telle langue. Et donc on prend, alors il y a 6000 langues dans le monde, on va pas vérifier les 6000 langues.
Non, mais enfin les principales quoi.
Mais enfin, on a, pour un modèle auto, par exemple, on vérifie sur 80 langues quand même.
Ah oui, quand même, ouais.
C'est quand même pas mal. Hein.
Ouais, ouais. Et ça, alors, ils sont pas venus chez vous, mais donc je vais les donner. Mazda va appeler une voiture Laputa. Alors, oui, Laputa pas, Mazda,
c'est pas formidable. Hein,
ça passe pas très très bien. Il y avait une Toyota MR2, ça fait un peu MR2,
oui,
hein, quand même.
Oui.
C'est un peu moyen. Et on avait l'Audi e-tron. C'est ça, e-tron.
E-tron, oui.
E-tron, voilà. Bon, c'est vrai qu'en France, vrai. Ça passe moyen.
C'est
bref,
vrai, c'est vrai.
Ben, ça arrive, hein. Ça arrive. J'imagine quand ils ont dû voir ce que ça donnait leur nom dans certains pays. Ils ont... bref. Vous, dans votre actualité, deux nouveaux noms. Il y a Uxello. Qui est arrivé, et Keo, qui est aussi pour Technicolor, et Uxello, c'est pour des solutions de protection incendie. Le O est à la mode. Est-ce qu'il y a des modes d'ailleurs avec des lettres qui reviennent?
Oui, oui.
On parlait tout à l'heure de Clio, de genre. Est-ce que c'est voilà ça revient comme ça?
Il y a des tendances. Alors notre challenge à nous, c'est d'essayer de les éviter les tendances, parce que si une marque est à la mode, ça veut dire qu'un jour elle va être démodée.
Ouais.
Donc, faut faire attention. Hein,
ouais,
bon.
Ouais, ouais.
Mais en même temps, il y a des tendances de fond auxquelles on a du mal à échapper. Et par exemple, vous prenez l'exemple de la marque Keo, qui est une offre de produits de Technicolor. Il y a deux phénomènes de tendance là-dedans. Il y a le O final qui est effectivement tendance et le Q sans le U qui est, en français n'existe pas, sauf en lettre finale, mais à l'intérieur d'un mot, il n'y a pas de Q sans U en français.
Ce qui est fort dommage pour le Scrabble d'ailleurs.
C'est fort dommage. Absolument. Absolument. Et c'est une tendance, on l'a vu avec Uniqlo par exemple, quand il s'est installé, et ça donne des mots un petit peu surprenants, et le challenge aussi en permanence, c'est que les marques surprennent un petit peu, parce que un Français ça connaît 2000 marques en pratique. On arrive, on est à la 2001ème marque, et il faut exister, donc si on s'appelle un truc très lisse et très fluide, c'est bien joli, mais ça va pas marquer. Keo avec le Q sans le U, ça surprend.
Et
Et là, on était content, aussi bien notre client que nous-mêmes, on était content d'avoir quelque chose qui dérangeait un petit peu les habitudes.
Ah ouais, effectivement. La mode est au O, au I, au...
Je dirais plus globalement, la mode est aux lettres rares, aux combinaisons rares, aux combinaisons improbables. D'abord, une raison toute bête, il y a énormément de marques déposées, des dizaines de millions de marques déposées dans le monde, et vous arrivez, il faut en trouver une libre.
Oui.
Alors, si vous faites un truc avec des A, des R, tout ça, ça va être une galère. Donc, maintenant, on va faire un truc avec un Q sans U, puis deux Z, et puis un W, machin, et on va faire des mots un peu surprenants, de plus en plus surprenants, et c'est pas mal.
Ouais, ouais. Est-ce que c'est important, le nom? Est-ce que les Français, ils sont sensibles? Est-ce que cela renforce davantage l'affinité que peut avoir le consommateur final avec sa marque? Est-ce qu'il y contribue?
Moi, je pense que si, alors pour sortir un petit peu du domaine marketing, si De Gaulle s'était appelé, je sais pas quoi, Chombier, il aurait peut-être pas eu le même destin.
Bon. Ouais.
Est-ce qu'on dit pour, ou Mendès France, ou...
Ouais, ouais.
Ce qu'on dit pour les hommes politiques vaut pour les produits, c'est-à-dire que je pense que certains grands succès, si vous leur donnez un nom plat, ne serait peut-être pas, ce serait peut-être pas produit. Je dis pas qu'on peut vendre n'importe quoi avec un bon nom. Je veux dire, il y a des produits qui réussissent avec des mauvais noms, il y a des bons produits qui réussissent. Bon.
Enfin, ça contribue.
Ah, c'est un élément important du mix, comme on dit.
Ouais. En période de crise, les marques cherchent à changer leur nom, à les arrondir, à les adoucir. Est-ce qu'il y a un changement qui, histoire de renforcer la proximité avec leurs clients, ou est-ce que c'est un petit peu wait and see et puis ça ira mieux demain?
Je dirais qu'en période de crise, les marques cherchent surtout déjà à payer moins cher. Ça, c'est ce qui m'a frappé le plus. Oui, il y a une tendance de fond qui est maintenant le discours, il n'est plus bottom down ou up down, il est horizontal, il est bon, donc on essaie dans les marques d'exprimer cette idée que l'information est partout et l'expertise est partout.
Ouais. Et qu'il y a une forme de stabilité aussi dans la marque, qui va pas changer de nom, histoire de pas perturber les signes qu'elle peut renvoyer ensuite.
Absolument, hein. Même le seul signe vraiment stable.
On a besoin de stabilité. Alors, ce qui est intéressant, c'est juste pour parler de votre étude que vous avez menée en 2012 sur les marques auprès des Français, et vous avez posé la question, ces marques sont-elles de droite ou de gauche? C'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ça humanise un petit peu les marques et la relation qu'il y a entre les Français et leurs marques. Et les Français vous ont répondu que eux considèrent comme marque de gauche Vélib, Cdiscount, Maïf, Dop, La Poste, et comme marque de droite, on s'y attendait un petit peu, mais Louis Vuitton, Dior, Total, Dassault, Chanel, Guerlain, et je trouve dans cette liste la Fnac.
Ça c'était la surprise. On s'y attendait
marque
pas.
Marque de droite.
Oui, quand on sait que la FNAC à l'origine c'était la Fédération Nationale d'Achat des Cadres, on s'attendait à la trouver à gauche.
Ouais.
Ça a été la vraie surprise de cette étude.
C'était les agitateurs de
qu'est-ce qu'ils faisaient du côté droite? En gros, ça vise un petit peu... Pourquoi, par exemple, Vélib est à gauche? Parce que ça évoque les gens qui l'utilisent, qui sont des gens qui ont des moyens raisonnables et qui ont un mode de vie, je dirais, plus à gauche. Les gens qui achètent à la FNAC, maintenant, ne sont plus situés à gauche. D'abord, de toute façon, on peut pas acheter ailleurs. Il n'y a plus tellement d'offres polyculturelles, surtout maintenant, depuis une semaine. Donc, ça n'est plus connoté à gauche. Et du coup, comme c'est quelque chose de puissant, parce qu'en fait, c'est ça que nous disent nos interrogés, nos interviewés, c'est quand c'est puissant, c'est à droite.
C'est pour
ça qu'on y trouve Total et des gens comme ça. C'est parce qu'ils sont puissants, tout simplement. Les puissants sont à droite. C'est ce que pensent les Français.
En tout cas, c'est très intéressant d'attribuer cette couleur politique. C'est très bien. Quels sont vos projets aujourd'hui, Marcel Botton, pour terminer?
Ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe sur Internet, il n'y a aucun doute. Donc c'est les noms de domaine. Nous sommes de plus en plus dans les noms de domaine, à la fois sur les aspects création. Maintenant, les clients nous disent souvent, on va créer nous un nom de domaine, avant même de nous dire créer une marque, bien que ce soit les deux. Et puis tous les litiges sur les noms de domaine, il y en a énormément. Donc on a toute une équipe de juristes spécialisés dans les noms de domaine. Donc on est de plus en plus sur la dématérialisation, sur Internet, sur tout ça.
Et les noms de domaine, Wanadoo par exemple, c'est vous, hein, si ma mémoire est bonne. On est toujours aussi dans des noms un peu arrondis comme ça, qui restent, la preuve, Wanadoo n'existe plus en tant que tel, mais la marque, on la connaît très bien.
Les marques Internet ont le droit d'être plus décalées que les marques classiques. On a plus de liberté de mouvement. On peut dire des choses plus folles. Il existe des choses comme Yahoo, comme Google, qui sont des marques quand même très décalées à l'époque. Maintenant, s'y habituer, mais c'est une marque extraordinaire, en fait.
Merci de votre visite.
Merci, Michel Picot.
De nous avoir éclairé sur les noms des marques qui font partie de notre quotidien.